Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Carole et moi avons la chance de rencontrer Madame Marie-Chantal Gagné, qui est directrice générale de l'organisme communautaire Albatros Capital National. Donc, merci beaucoup, Madame Gagné, d'avoir accepté de nous rencontrer dans le cadre de notre podcast. C'est vraiment un très grand plaisir qu'on a de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
Oui, puis j'ai vraiment l'impression là, que la discussion d'aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. On a prévu discuter du milieu communautaire, des soins palliatifs, de l'implication des bénévoles, du soutien offert par l'organisme. Donc, pour se lancer là, dans le vif du sujet, si vous voulez bien, peut-être commencer par décrire qu'est-ce que l'organisme Albatros Capital National.
En fait, Albatros Capital National, c'est un organisme communautaire, comme vous l'avez mentionné, qui a été fondé en 2010 pour accompagner les personnes en soins palliatifs ou en fin de vie, dès l'annonce du diagnostic ou du pronostic, bref, à partir du moment où la personne n'est plus en traitement visant à guérir, évidemment, et jusqu'à son décès. L'organisme a été fondé par des bénévoles qui ont eu un appel pour cette mission-là. Et ça a été porté entièrement par des bénévoles jusqu'en 2016. Donc, en 2016, là, il y a eu des permanents là, qui ont été embauchés. Mais avant ça, c'était seulement bénévoles. Les services qu'on offre, c'est évidemment l'accompagnement des personnes en soins palliatifs ou en fin de vie. On offre du répit à leurs proches aidants. Nous avons aussi ajouté, nous, depuis le milieu de la pandémie, un service d'intervention psychosociale pour les proches aidants et les endeuillés. Donc, on couvre également là, la partie proche aidance et deuil, mais toujours dans un contexte de soins palliatifs. Et finalement, on donne de la formation pour les citoyens qui désirent s'outiller dans le but d'accompagner un proche ou pour devenir accompagnant là, bénévole. Donc, c'est nos volets de services actuels et des organismes Albatros, il y en a ailleurs au Québec. Donc, ça existe depuis 40 ans. Mais étant chacun indépendant et autonome, bien, chacun se développe en fonction des besoins dans son milieu puis des priorités de l'organisation. Là. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas juste à Québec qu'il y a un organisme Albatros.
Puis, dans le fond, là, quand on parle d'accompagnement des personnes qui reçoivent des soins en palliatif, est-ce que vous pouvez préciser davantage là, quelle sorte d'accompagnement on leur offre?
En fait, le service d'accompagnement est offert par des accompagnants bénévoles. Donc, c'est des gens qu'on sélectionne, qu'on choisit, qu'on forme et qu'on supervise, qu'on soutient dans l'exercice de leur mission à eux. Les bénévoles sont présents auprès d'une personne en soins palliatifs. Donc, c'est un service à Québec. C'est un service qui est un à un. Donc, c'est un bénévole qui est jumelé avec une personne qui est en soins palliatifs. Et il est présent, le bénévole est présent une fois par semaine, environ une demi-journée par semaine, mais c'est sûr que ça peut varier en fonction des besoins, des capacités de la personne. Et ça dépend aussi quand est-ce qu'on arrive dans la vie de la personne. Donc, si on arrive dans la vie d'une personne qui est encore en forme, qui a encore des capacités, ben ils vont pouvoir partager des activités, ils vont pouvoir créer une relation ensemble qui est davantage dans l'action au début parce que la personne est encore dans l'action dans sa vie, si on veut. Et si on arrive plus tard dans la vie de la personne, ben là, c'est sûr que c'est davantage une présence ou de l'écoute et du répit aux proches. Donc, le type d'accompagnement va varier beaucoup en fonction de chacun, mais c'est un service qui est personnalisé, qui est individuel. Le jumelage est fait en fonction de ce que la personne veut vivre, en fonction de ses intérêts, en fonction de ses, préoccupation et le bénévole, évidemment, est choisi. Des fois, ils ont une passion commune. Des fois, la personne veut faire une activité. Fait que là, on cherche un bénévole qui sait jouer au crib ou qui a envie de nager ou qui a envie de faire du jardinage. Donc, ça dépend vraiment de où est la personne qui fait la demande. Et le service s'articule autour de son besoin à elle et non l'inverse.
C'est vraiment super, ça, comme formule, là. Ça va être assez apprécié des est-ce que vous avez appelé les patients,
Non, moi, c'est des personnes accompagnées.
les personnes accompagnées? OK.
Oui. Donc, oui, c'est en général effectivement apprécié, surtout quand on réussit à faire un bon match. Des fois, on a des demandes spéciales, puis on réussit à trouver quelqu'un et on est toujours content dans ce temps-là, effectivement.
Puis vous accompagnez combien de personnes environ là, par année ou
Ça a varié beaucoup. En fait, nous, la majorité du service à Québec est offert à domicile. Un accompagnement peut durer une rencontre, mais peut aussi durer plus qu'un an ou deux, là. Donc, on n'est pas dans la quantité de personnes servies, mais plus dans l'intensité et la qualité du service rendu. Dans la dernière année, on a accompagné. Hey, mon Dieu, j'aurais dû regarder ça, hein? C'est au-dessus de 70 personnes en soins palliatifs. Dans le fond, comme je vous disais, il y en a que c'est juste une rencontre, mais il y en a que c'est quand même plus longtemps. La moyenne est à peu près 6 mois. Donc, à raison d'une fois par semaine pendant 6 mois, on a une dame qui est décédée, ça faisait 37 mois qu'elle était accompagnée, une autre de 27 mois. Fait que ça varie quand même beaucoup. Mais le service présentement est en pleine croissance. On a connu une croissance de 36% l'année passée. Puis déjà dans les 3 premiers mois de cette année, on est encore à 30% de croissance, là. Donc, plus c'est connu, plus il y a de la demande, là, qui entre, là.
Puis pour les proches qui sont soutenus aussi dans le processus, est-ce qu'il y a un maximum de temps accordé ou de séances accordées?
Ça dépend. En fait, au niveau du service d'accompagnement et répit, dans le fond, quand le bénévole se présente à domicile, s'il y a un proche aidant qui est présent, il peut aller vaquer à ses occupations, faire ce qu'il veut, aller faire une sieste, aller faire du ski. Bref, le proche n'a pas de compte à nous rendre par rapport à ce qu'il fait de ce temps-là, qui est son moment à lui, parce qu'on sait qu'être proche aidant avec quelqu'un dans un contexte de soins palliatifs, c'est tout un sprint. Et d'avoir un moment à soi, c'est important. Des fois, il n'ose même plus sortir de la maison parce qu'il n'ose pas laisser la personne seule, parce qu'ils sont inquiets. Donc, de savoir qu'il y a quelqu'un à la maison et que la personne est en sécurité, ça leur permet de se donner le droit de sortir et d'aller évacuer leurs activités. Et c'est un moment aussi privilégié pour la personne qu'on accompagne, dans le sens où c'est pas du gardiennage qu'on fait. Cette personne-là vit aussi son moment privilégié avec quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'elle fait, puis avec qui elle va nouer une relation. Donc, étant donné que dans ce contexte-là, nous, on est présents à partir du début jusqu'au décès, ben, il n'y a pas de limite au service de répit qu'on peut offrir à un proche. Sinon, les limites du bénévole et aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de surinvestissement, là, de la part des bénévoles. Donc, on est vigilant, mais normalement, dans un contexte d'une demi-journée par semaine, ça durera le temps que ça durera, puis tant mieux si ça dure longtemps. Du côté de l'intervention psychosociale, là, c'est différent. C'est dans la mesure où un proche aidant, effectivement, on peut le soutenir à partir du moment où il apprend que son proche est en soins palliatifs ou que son proche est atteint d'une condition qui fait qu'il va éventuellement décéder. Mais c'est certain que c'est pas nécessairement une fois par semaine tout le long, là, parce que le proche, en général, n'aurait pas besoin de ce type de service-là. Fait que c'est un suivi d'intensité variable la majorité du temps, et c'est en fonction encore là de ses besoins. Donc, le proche, quand on est dans le contexte de l'intervention psychosociale, ben, c'est évidemment fait par des professionnels, c'est des travailleuses sociales en général dans notre équipe, et ça se fait à domicile, dans les milieux de soins, dans les milieux de vie ou au bureau. Ça se fait à l'endroit qui convient et qui est facilitant pour le proche aidant. Et ben, les limites comme telles sont définies et avec le proche aidant et l'intervenante professionnelle. Fait qu'il n'y a pas
OK.
de cadre défini. Encore là, on va le suivre dans sa réalité. Puis il y a des moments charnières, tu sais, quand le diagnostic arrive, quand des fois l'état se dégrade, ou il y a une hospitalisation, ou il y a de mauvaises nouvelles. Tu sais, il pensait que finalement, peut-être que la personne, l'état s'était stabilisé. Finalement, il y a des examens qui font que finalement, ça va se précipiter. Fait que c'est sûr que dans ces moments-là, on est présent, puis on est là pour eux aussi. Et après le décès, en fonction des besoins, là, évidemment.
OK, parfait. Puis, j'aurais une question par rapport aux bénévoles. Est-ce que il y a principalement des bénévoles étudiants? Est-ce que il y a beaucoup aussi d'autres personnes comme, tu sais, des personnes, des adultes, des personnes âgées qui s'impliquent dans votre organisme?
En fait, on a vérifié justement à la fin de l'année dernière notre bilan et c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est un tiers d'étudiants universitaires, un tiers d'adultes sur le marché du travail, dont plusieurs ont encore des enfants à la maison, donc des gens dans la trentaine, dans la quarantaine et dans la cinquantaine, et on a un tiers de retraités. Avec la pandémie, évidemment, nos retraités plus expérimentés, certains ont dû prendre leur retraite parce qu'ils étaient eux-mêmes en RPA et finalement, les règles faisaient en sorte que ça devenait difficile pour eux et même impossible. Il y a une période où les gens en RPA n'avaient pas le droit d'aller faire du bénévolat. Donc, c'est sûr qu'on a perdu quelques-uns de nos bénévoles expérimentés, mais on a comblé par un nouveau projet là, visant les étudiants en médecine puis en sciences sociales. Donc, on a réussi à renouveler l'équipe, je vous dirais. Mais c'est vraiment, toute personne âgée de plus de 18 ans peut être bénévole chez Albatros dans la mesure où elle a les aptitudes, le savoir-être qu'on recherche et qu'elle n'a pas d'empêchement judiciaire et des bonnes références.
Parfait. Donc, il y a une formation, je pense, comme vous disiez tantôt, là, pour les bénévoles, ils sont formés sur les soins palliatifs, sur l'accompagnement.
En fait, oui, la formation Albatros initiale dure, c'est 12 modules, en fait, c'est 36 heures, qui couvrent l'ensemble des préoccupations de la personne en soins palliatifs ou en fin de vie et de ses proches. Donc, on va avoir effectivement une grosse partie de la formation qui porte sur l'accompagnement, mais on aborde aussi la communication, qui est quand même un des fondements d'offrir une présence de qualité. On a les enjeux éthiques et légaux liés à la fin de vie. On voit les dimensions psychosociales, dimensions physiques, dimensions spirituelles, le deuil chez l'enfant, après la mort aussi, donc l'agonie et la mort. Et après le décès, donc on va dans un salon funéraire à la coopérative funéraire des Deux-Rives, où là, ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe après le décès, l'importance des rituels, les différents rituels qui existent, les aspects paperasse, légaux, bref, pour que le bénévole n'est pas un expert, c'est pas un professionnel, il a une posture d'accompagnant, et ça, c'est la formation vise à les amener à adopter cette posture-là, mais il faut que nos bénévoles, au moment où ils commencent à accompagner, soient à l'aise de recevoir, de tout recevoir, avec ouverture et avec sans jugement, sans trop d'appréhension. Donc, on les prépare à vivre l'accompagnement en soins palliatifs. Nous, à Québec, nos bénévoles ne donnent pas de soins. Donc, on accompagne dans un contexte de soins palliatifs, mais on donne pas de soins. Donc, on est vraiment là pour l'accompagnement, pour la présence, pour le soutien émotionnel, mais on n'est pas des professionnels, puis on remplace pas non plus les professionnels du réseau de la santé. Fait que ça, c'est important à préciser. Tu sais, contrairement à des bénévoles en maison de soins palliatifs où eux vont être actifs dans les soins d'hygiène, nous, ils font pas ça.
C'est vraiment intéressant, là. Juste à écouter le contenu de la formation, donc j'ai le goût d'aller la suivre. Oui.
Pendant la pandémie, on s'est retrouvé avec notre formation qui n'était pas encore adaptée à la visio. On voulait l'adapter à la visio et on a travaillé aussi en collaboration avec notre fédération pour adapter cette formation-là pour pouvoir être donnée de manière avec qualité. En Zoom, puis avec la capacité aussi de développer les mêmes compétences chez les personnes formées. Donc, c'est le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke qui l'a adapté pour la donner en classe virtuelle. Mais en attendant, ils ont travaillé ça pendant un an, mais moi, en attendant, j'avais besoin de bénévoles. Donc, on a adapté notre formation en condensé pour la donner à des étudiants en médecine. Au départ, on a commencé avec médecine parce qu'on avait une opportunité pour recruter des étudiants en médecine. Et basé sur les acquis en lien avec la formation académique qu'ils reçoivent, on a pu condenser la formation et considérant que les étudiants étaient déjà adaptés à la visio, très techno, c'était facilitant pour nous. Donc, on a créé une première escouade Albatros, on les a appelés comme ça parce qu'ils venaient vraiment en renfort là, à nos accompagnants. Et devant le succès du projet, on a reformé une deuxième escouade à l'hiver dernier et on en forme une nouvelle là, cet automne. Et là, on élargit aux étudiants en sciences sociales aussi, donc que ce soit médecine, physio, soins infirmiers, psycho, travail social, basé sur vos acquis académiques finalement. Et c'est un projet qui est hyper intéressant autant pour les étudiants que pour les personnes qui accompagnent parce que ça fait des belles rencontres intergénérationnelles. Vraiment, ils sont appréciés. Ils sont quand on fait un jumelage avec un étudiant, la personne elle sait que c'est un jeune qui va aller l'accompagner. Souvent, c'est une belle surprise pour eux. Puis il y en a beaucoup qui voient pas nécessairement souvent leurs petits-enfants ou qui ont moins l'occasion dans leur vie de côtoyer des jeunes, puis ils trouvent l'expérience très très enrichissante là, la rencontre avec un plus jeune. Fait qu'on aime vraiment ce projet-là. Donc la formation à ce moment-là ne dure pas 36 heures. Là, on l'a vraiment vraiment adapté, là, basé sur... c'est comme si on reconnaissait des compétences universitaires.
Donc, ça fait un peu des rencontres intergénérationnelles en même temps. Et que, comme je vois, là, avec les personnes plus âgées, avec des étudiants. Et...
Ouais. C'est vraiment apprécié des deux côtés, parce que des fois, c'est une découverte. Puis ouais. D'amener un futur professionnel du milieu de la santé à avoir une posture d'écoute, d'ouverture, puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, mais ce n'est pas dans votre rôle. T'sais. Vous êtes formé pour agir, vous êtes formé pour intervenir. Et là, nous, on dit non, dans notre contexte à nous, tu enlèves ton chapeau de futur professionnel et tu mets ton chapeau d'humain qui va à la rencontre d'un autre humain et qui va apprendre à écouter, qui va apprendre à entendre la souffrance. Puis il y a des fois des situations dans lesquelles on peut pas, il n'y a pas toujours de solution, il n'y a pas toujours, la personne, c'est pas nécessairement d'un conseil qu'elle a besoin, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être accueillie avec ce qu'elle est. Des fois, fait que nous, on n'est pas là pour faire cheminer, on n'est pas là pour amener des solutions, on n'est pas là pour conseiller, on n'est pas là pour changer une situation, on est là pour amener du réconfort dans ce que la personne va vivre et va forcément vivre parce qu'on va toutes finir par décéder un jour. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, comment rendre cette partie-là de la vie un peu plus douce, un peu plus agréable, puis continuer à voir, à découvrir, à rencontrer. Tu sais, il y avait un monsieur qui nous disait, mon bénévole, je l'aime parce que c'est le dernier ami que je vais m'avoir fait. Parce que souvent, en fin de vie, les gens sont plus isolés, moins d'occasion de rencontrer des nouvelles personnes ou les personnes qu'ils rencontrent sont dans un contexte où ils donnent un soin, où ils viennent à intervenir, où il y a un plan d'action. Alors que là, c'est comme pour la personne, c'est comme l'impression de retomber en amitié une dernière fois alors qu'ils pensaient probablement que c'était plus possible. Fait que oui, avec l'escouade, ça crée des belles rencontres, vraiment.
C'est vraiment super piquant. Ça me fait penser quand vous parlez d'intergénérationnel. Est-ce que c'est parce que Albatros Québec, en fait, c'est des personnes de 18 ans et plus qui peuvent être accompagnées? Il n'y a pas d'enfants?
Non, on n'accompagne pas d'enfants. Puis ça s'est déjà fait dans le passé, mais la décision a été prise d'accompagner des adultes. Donc, la clientèle, c'est vraiment adulte. À savoir, est-ce que si on avait une demande d'un jeune de 17 ans, on l'accepterait? Je voudrais qu'on se poserait la question, là, mais la plus jeune personne qu'on a accompagnée à date, elle avait 22 ans. Donc, mais il n'y a pas d'âge non plus. Si on n'accompagne pas juste des personnes âgées, c'est sûr que la clientèle La moyenne d'âge est élevée, là. La moyenne d'âge est autour de 76 ans. Mais il y a des gens dans la quarantaine, dans la trentaine qui font appel à Albatros. Et c'est là où c'est intéressant que les gens sachent aussi qu'on a des bénévoles de tous les âges et de tous les milieux. Donc, quand la personne appelle, on lui demande sa préférence aussi par rapport à ça, là, pour qu'elle soit à l'aise.
Oui, parce que j'imagine que certaines personnes aiment mieux avoir une personne qui a plus d'expérience de vie, plus âgée. J'imagine des fois, il doit y avoir certaines personnes qui vous demandent ça.
Écoute, on nous demande toutes sortes de choses. Premièrement, on demande est-ce que vous avez une préférence pour un homme ou une femme? Des fois, les gens n'ont pas nécessairement de préférence. Des fois, oui. Puis, ils trouvent ça le fun qu'on leur pose la question. C'est arrivé des fois où une femme disait, ben moi, j'aimerais ça être accompagnée d'un homme. J'ai pas d'homme dans mon entourage, mais ça ferait changement. Alors que des fois, un homme préfère être accompagné par une femme parce qu'il a toujours travaillé dans des milieux de femmes, puis il se sent plus à l'aise avec une femme. Puis d'autres fois, ils veulent un homme parce qu'ils ont une conjointe, des filles, une travailleuse sociale, une infirmière, une médecin. Puis finalement, ils voient plus de gars. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Puis au niveau de l'âge, on a des gens qui préfèrent des bénévoles expérimentés, puis d'autres qui aiment l'idée d'être accompagnés par quelqu'un de plus jeune. Fait que ça dépend vraiment de chacun. Puis c'est pas tant l'âge, honnêtement, que les passions, le type de personnalité, la situation aussi dans laquelle la personne se retrouve. Dans le fond, nous, ce qui est important, c'est de trouver un bénévole qui va être à l'aise dans la situation de la personne, avec qui, si dès le départ, il partage déjà une passion aussi, qui ont un sujet de conversation au départ, qui va permettre d'amener ça peut-être plus loin aussi, tout faciliter la création du lien. Donc, tu sais, si on a quelqu'un qui joue de la guitare, puis j'ai un bénévole qui joue de la guitare, ben on risque de les matcher ensemble en sachant, ben, si au début ils sont gênés, ils vont pouvoir jouer de la guitare. Parce que pour quelqu'un en soins palliatifs, de dire, ben, je vais accueillir un bénévole chez moi, un accompagnant chez moi. Des fois, il y en a qui me disent, ben, je saurais pas quoi lui dire. Puis là, inquiétez-vous pas, ça va bien se passer. Pour rassurer. Dans un contexte de répit, des fois, la personne, ça ne tente pas nécessairement, mais c'est le conjoint ou la conjointe qui a besoin. Et là, on fait tout pour faciliter. Le partage de la passion commune vient faciliter les choses parce que, écoutez, ça va être quelqu'un qui va pouvoir, vous nous avez mentionné aimer faire telle activité, ben, c'est quelqu'un qui pourrait le faire avec vous, ça. Et là, ça vient, ah, OK, ben, fait qu'on essaie de faciliter l'accès au service, puis l'acceptation du service aussi, parce que pour certaines personnes, c'est pas facile d'accepter d'avoir besoin d'être accompagné pour que le conjoint ou la conjointe puisse prendre un répit, puis je peux comprendre ça, tu sais.
Puis comment habituellement ceux qui sont accompagnés ou qui souhaitent être accompagnés trouvent votre organisme? Est-ce qu'ils se font référer par leur médecin de famille?
Ça, ce serait le rêve. À l'heure actuelle, presque 100% de la référence vient des équipes soins à domicile du SUS. Donc, c'est presque 100% de la référence qui vient de là. Par contre, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en fonction des besoins, en fonction des priorités, n'ont peut-être pas besoin de ces équipes-là, mais pourraient aussi, par ailleurs, bénéficier de nos services. Donc, moi, qu'un médecin de famille appellerait pour référer quelqu'un, j'aimerais qu'on en arrive là. Puis ça permettrait aussi d'arriver plus tôt parce que l'équipe soins palliatifs à domicile, des fois, arrive tard. T'sais, des fois, la maladie, elle se précipite, hein, et des fois, ça se passe plus vite que prévu. Et finalement, ben, on réalise que la prochaine aidante, ça fait peut-être un an qu'elle aurait pu avoir du répit, que ça y aurait fait du bien, puis qu'au moment où le bénévole arrive, elle va faire une sieste parce qu'elle dort plus. Mais si on était arrivé 6 mois avant, ben, au moment où le bénévole arrive, elle serait peut-être allée prendre une marche ou elle serait peut-être allée prendre un café avec des amis. Et elle aurait peut-être pu un peu préserver son énergie, là, si on veut. Fait que oui, on travaille à se faire connaître davantage des professionnels du réseau. Et l'objectif est pas juste en termes de reconnaissance ou de notoriété, l'objectif est vraiment de favoriser des références plus tôt pour qu'on puisse soutenir les gens au moment où ils peuvent en profiter. T'sais, parce qu'à la fin, la prochaine dame qui va se coucher parce qu'elle ne dort plus, elle ne profite pas tant que ça de la présence, elle profite de la présence de l'accompagnant, mais elle dort. Et on aurait pu lui permettre de s'économiser un peu, là. Fait que ça, c'est mon rêve que les médecins de famille nous réfèrent.
Oui, je comprends tout à fait. Puis, j'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans les soins palliatifs chez Albatros?
Ah, mon Dieu, là, ça, c'est une longue histoire. Mais en fait, c'est mon cœur qui m'a amenée là. Moi, j'ai accompagné ma mère qui est décédée, ça va faire 30 ans, là, au début du mois d'août. Et c'était une époque où les soins palliatifs, je suppose que les médecins connaissaient ça, mais ben, tu sais, je pense que la personne qui était en soins palliatifs savait pas qu'elle était en soins palliatifs. Le mot, moi, je l'avais jamais entendu. Et le soutien, bon, il devait en avoir, mais on n'en a pas nécessairement bénéficié. Mais j'étais, c'est ça, moi, je l'accompagnais dans ses traitements, je l'accompagnais dans sa greffe de moelle osseuse à Montréal où on était isolés pendant 3 mois, bref. Et c'est un milieu dans lequel je me suis sentie bien. Écoute, je m'en serais passée, hein? On s'entend. C'est une expérience de laquelle je me serais bien passée, mais je me sentais pas démunie. De côtoyer des personnes en sachant qu'il y en a qui allaient décéder. Je me sentais pas dépassée nécessairement par le fait qu'on côtoyait quand même la mort et que ma mère me parlait de sa mort, puis qu'on devait envisager cette issue-là à un âge où normalement tu l'envisages pas, là. Puis les infirmières, en tout cas, bref, tout le monde me disait, tu devrais venir travailler en soins. T'es faite pour ça. Ben, ils ne disaient pas soins palliatifs parce que ça n'existait pas, mais j'avais eu des tu sais, tu devrais venir être bénévole. Puis je me disais, ben non, j'ai ma personne, moi, que j'accompagne. Mais j'étais très, très présente. Fait que je collaborais avec les équipes, puis j'ai débrassé des fioles dans les traitements. C'est le genre de proche hyper actif, là. Fait que finalement, je m'étais dit un jour, je serai bénévole. Tu sais, un jour, parce que je savais même pas qu'on pouvait travailler dans ce domaine-là et j'avais pas de propension à faire des études en santé ou bref, je l'avais pas envisagé comme carrière. Je travaillais dans le communautaire. Dans le fond, j'ai toujours travaillé dans le milieu communautaire en 2019, dans le fond, j'ai vu passer une offre d'emploi pour poste de direction chez Albatros. Et c'est là que j'ai dit, oh ouais, il y a des soins palliatifs en communautaire. Et je regardais la mission, je regardais les tâches, je regardais tu sais, le fait qu'on travaille avec des bénévoles, qu'on offre des services à domicile. Ça m'a interpellée vraiment. J'étais même pas à la recherche d'un emploi et ça a fait, c'est moi ça, c'est tout à fait moi. Fait que quand je dis que c'est mon cœur, c'est vraiment mon cœur. Fait que dans le fond, c'est mon projet de retraite que je fais pendant ma carrière finalement.
Wow, mais c'est vraiment une belle histoire d'être complètement dans un autre emploi puis de voir un offre tout d'un coup que ça nous corresponde parfaitement. Je pense que vous êtes vraiment à la bonne place.
Ah, oui, je pense que oui, honnêtement. Puis, c'est sûr que j'étais dans le milieu communautaire, j'étais une gestionnaire, j'ai travaillé avec des citoyens, des bénévoles, j'ai travaillé avec des endeuillés, j'ai travaillé en prévention du suicide quelques années avec des endeuillés, avec des gens qui voulaient s'engager pour une cause. Fait que moi, tout cet aspect-là d'Albatros qui est basé sur l'engagement citoyen, ça m'a profondément interpellée. Dès le départ, là, fait que c'est ça, je me suis dit, non, c'est vraiment c'est mon milieu, c'est à moi, c'est moi. Donc, ça confirme, je peux confirmer présentement, c'est encore le même sentiment qui est là.
Vous êtes sur votre X, comme on dit.
Moi, ouais, j'aime pas cette expression-là, mais oui. Effectivement, est-ce que ça réfère? Oui.
Parfait. Puis si on va plus là, dans le parcours, on aurait aimé aborder là, vraiment le parcours des personnes justement qui reçoivent l'accompagnement, qui sont en fin de vie. Comment ça se déroule? Est-ce que la plupart, justement, tu sais, on disait tantôt, certains arrivent que quand c'est presque la fin, tandis que certains arrivent plus tôt. Est-ce que c'est seulement à cause des références qui ne sont pas faites plus tôt ou s'il y a d'autres causes à ça? Je ne sais pas si ma question est claire.
Oui, la question est claire. La réponse, elle est probablement moins. Dans le sens où, moi, je suis arrivée en 2019 chez Albatros, 6 mois avant le déclenchement d'une pandémie. Donc, le recul que j'ai, j'en ai pas. T'sais, en fait, Albatros, dans une situation normale, on fonctionne à plein régime, plein potentiel, et on peut analyser les données. Je suis pas dans ce contexte-là encore. Un jour, j'espère y arriver. Fait que dans le fond, je vais te donner des observations générales, mais ce n'est pas des données probantes. C'est des feelings, hein? C'est la règle
c'est
du pouce.
Bon.
Là. Ce qu'on peut constater, c'est que quand la personne n'a pas de proche aidant, en règle générale, on arrive plus tôt dans sa vie. Parce que c'est une personne qui souvent est à domicile ou en RPA, est en soins palliatifs et a besoin, vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et a besoin d'être accompagné là-dedans ou de briser son isolement. Bref, on arrive en règle générale plus tôt dans la vie de ces gens-là. Quand il y a un proche aidant, souvent, on va arriver un petit peu plus tard, on va arriver souvent à l'étape où le proche aidant a besoin d'un répit, ou l'étape où le proche aidant est inquiet de sortir seul ou d'aller faire l'épicerie, ou de, tu sais, il stresse puis il empêche la personne de se lever du fauteuil, il y a le temps qu'ils vont faire l'épicerie, puis ils se dépêchent, puis il ne profite plus d'aucun moment de répit. S'ils travaillent sur le terrain, ils vont être inquiets, ils vont rentrer voir tout le temps ou ils vont se promener avec le téléphone pour que la personne puisse les appeler. Donc, à ce moment-là, on arrive puis on leur permet d'avoir une demi-journée par semaine où ils se cassent pas la tête. Là, t'sais, puis à part d'un incident, on les appellera pas pendant que c'est leur moment à eux. Donc, c'est très variable. C'est sûr que les gens plus jeunes, jusqu'à récemment, on n'en avait pas souvent des demandes pour des gens plus jeunes, des références. Est-ce que c'est parce que les gens plus jeunes ont moins accès ou bénéficient moins des services à domicile? Peut-être. Peut-être qu'ils sont davantage entourés, donc peuvent aller avoir des services en externe. Fait que ça, ce bout-là, on n'a pas eu le temps de le creuser. Puis nos partenaires sont toujours dans l'urgence aussi présentement. Donc, fait que j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on arrive dans la vie du proche aidant, entre autres, il nous dit « j'aurais aimé ça vous rencontrer plus tôt. J'aurais aimé, tu sais, vous savoir que ça existait il y a 6 mois. » Puis la personne accompagnée, c'est un peu la même chose. Quand on arrive, puis que la personne a déjà plus la capacité d'aller dehors ou qu'a déjà plus l'énergie pour bénéficier pleinement de cette visite-là qui peut être hyper enrichissante, hyper intéressante, ben, va nous dire, ben, j'aurais aimé ça savoir que ça existait avant. Ce qui nous fait dire, ben, faut travailler à pouvoir se faire connaître pour que les gens puissent nous connaître et nous appeler avant. On observe quand même, là, présentement des références plus tardives, mais on sait que les services sont. On sait qu'il y a beaucoup de demandes actuellement. Il y a une explosion de demandes en termes de soutien à domicile. Fait que ça s'explique probablement par ça, mais nous, il faut travailler à ce que les professionnels nous connaissent davantage pour pouvoir nous référer plus tôt ou au bon moment. Tu sais, je veux dire, le moment où on arrive est le bon moment, mais si la personne nous connaissait déjà et décide « maintenant, je suis rendue là », on est au bon moment. Mais si elle nous découvre et qu'elle nous dit « ben, j'aurais aimé ça vous connaître il y a 6 mois », ça veut dire qu'on n'est pas au moment optimal là, dans son processus.
Puis est-ce que vous faites des genres de campagnes pour vous faire connaître à travers soit des CIUSSS ou des différents réseaux?
Oui, on rencontre les partenaires autant que possible, évidemment. En termes de campagne de publicité, le défi dans le milieu communautaire, tout le monde vous le dira, il est financier. Et le défi est aussi, moi, demain matin, je ne peux pas avoir 200 personnes en soins palliatifs qui m'appellent parce que ça prend, moi, ça me prend quand même un filet de sécurité pour mes bénévoles.
Ouais.
Et le filet de sécurité, c'est le réseau. Tu sais, je
Ouais.
peux pas, moi, suivre, accompagner quelqu'un si cette personne-là a pas un suivi médical adéquat ou a pas, tu sais, s'il arrive quelque chose, si on cherche, ça arrive des fois des personnes seules, on les cherche, on n'est plus capable de les rejoindre. Bien, ça me prend un intervenant du réseau qui va me dire, bien, finalement, être hospitalisé, rendu à tel endroit. Tu sais, fait qu'il faut. Pour nos bénévoles qui sont pas des professionnels de la santé, ça prend quand même des gens qui ont quand même un minimum de services avec le réseau, mais ça pourrait être des services externes qui nous permettraient, nous, d'interpeller si on voit des situations problématiques. Fait que dans le fond, des campagnes grand public, tout ça pour dire qu'on en fait pas parce que notre public cible est quand même limité. On en fait plus du côté des proches aidants, des endeuillés.
OK. Moi, j'en reviendrai un peu, là, parce vous avez parlé que vous êtes arrivé en 2019, il y a eu la pandémie, puis qui est toujours encore présente. On a parlé un peu des défis, des enjeux que vous avez dû faire face, là, notamment au niveau du nombre de bénévoles, puis des escouades que vous avez recrutées. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez rencontrés, puis comment vous avez dû user de créativité pour que le service continue de rouler, là, pendant les différentes vagues de la pandémie?
Ben oui, ben c'est sûr que la pandémie, c'était un grand imprévu. Nous, on avait fait notre planification stratégique 2 jours avant le confinement général. On avait de la vision. Mais on va l'avoir réalisé. On est dans la dernière année, ça a bien été notre affaire. Mais oui, il y a eu des défis. Le premier défi, c'était d'avoir l'information, à savoir est-ce qu'on a le droit de continuer d'offrir notre service? La première question, ça a été celle-là. Parce que moi, les bénévoles, tu sais, un accompagnant qui est en lien avec une personne depuis un an veut continuer à aller la voir. Là. C'est évident, et ils ne laisseront pas tomber. Mais là, est-ce qu'on avait le droit? Fait que ça a été les premières grandes questions qu'on s'est posées. Et oui, on avait le droit, finalement, on était un service essentiel. Donc, nous, on a arrêté une semaine le temps que quelqu'un nous réponde à savoir est-ce qu'on peut y aller ou pas, si la personne est volontaire, évidemment. Et la réponse a été oui. Donc, on a maintenu le service. On a effectivement perdu. Il y a des bénévoles qui ont dû prendre une pause, que ce soit en raison de leur âge ou de leur état de santé, ou des fois l'état de santé d'un conjoint. On avait des gens qui avaient des conditions qui les mettaient à risque. Donc, ces gens-là ont pris une pause. Fait qu'on a tenu, il y a 21 bénévoles qui ont tenu le fort pendant un an, la première année. Un an, quasiment et demi, dans le fond, avant que l'escouade. Il y a l'escouade qui est venue en renfort, mais ça a été quelque chose. Dans le fond, eux autres, c'était du en continu. Normalement, quand quelqu'un décède, le bénévole souvent va prendre une pause, surtout si cet accompagnement-là a duré plusieurs mois. Mais là, il recommençait tout de suite parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui avaient besoin. Puis on s'est retrouvé avec une liste d'attente avec des gens qui n'ont pas pu avoir le service. Puis c'était d'autres choses à gérer, là, mais, mais ça, c'est ça. Ça a été un grand regret. On a observé beaucoup de détresse du côté des proches aidants, du côté des endeuillés aussi. Il y a beaucoup de services à domicile, pas au niveau des institutions, mais beaucoup de services connexes ont arrêté. Il n'y avait plus de services en personne, pas de groupe de soutien, plus d'intervention en personne. Un endeuillé en CHSLD, il n'y a pas de service, là. Donc, on s'est retrouvés, nous, dans notre planification stratégique, on s'était dit qu'on allait évaluer l'opportunité d'offrir davantage de services aux proches aidants et davantage de services aux endeuillés, mais on voulait le faire en complémentarité avec ce qui existait dans le milieu, puis on voulait pas. Tu sais, si le service est déjà rendu par quelqu'un, c'est pas opportun d'en développer un autre à côté, puis on rend pas service à personne. Donc, on développe en grand respect, je pense, de nos partenaires et institutionnels et communautaires. Mais la pandémie nous a ouvert grand le trou de service qui était des services de proximité souples et individuels pour les proches aidants, les endeuillés. Tu sais, moi, j'étais la seule employée chez Albatros. J'étais toute seule. Et je passais mes semaines au téléphone avec des proches aidants qui étaient en détresse parce qu'il n'y avait plus d'aide au ménage, il n'y avait plus transport, pas de possibilité d'appeler la famille en renfort, ou des fois même certaines familles refusaient que le CLSC aille parce que se disait, ben, l'infirmière, elle va dans plusieurs maisons dans la semaine, mais au bénévole, elle va juste dans une maison dans la semaine. Donc, on s'est retrouvé dans des situations où le bénévole était le seul personne extérieure présent auprès d'une famille. Donc, ça entraînait un certain surinvestissement de la part des bénévoles actifs aussi. Et moi, mon rôle, c'est de soutenir ces bénévoles-là. Fait que, dans le fond, on a appelé nos bailleurs de fonds à l'aide et ils nous ont aidés. Donc, on a développé le service proche aidant endeuillé sur une base pilote. Donc, on a embauché des intervenants, c'était très temporaire, là. Au départ, c'était 3 mois. On a embauché du soutien aussi ici pour les accompagnants, pour les soutenir dans ce qu'ils faisaient. Tout était plus compliqué tout le temps, là. Puis là, je dis là, je me plains pas parce que je pense à mes partenaires du réseau de la santé, puis j'aurais pas voulu être dans leur bottine, puis je voudrais pas l'être encore. Donc, c'est à ma petite échelle à moi, là, mes difficultés. Mais oui, ça a été une occasion de ça a mis notre mission en lumière. Dans le fond, tout d'un coup, c'était inacceptable socialement que quelqu'un meure seul. C'était inacceptable totalement socialement que les proches aidants ne soient pas soutenus. Donc ça, pour Albatros, même si on se serait passé de cette expérience-là aussi, on a su en tirer parti, dans le sens où, un peu comme les soins palliatifs, hein, tu le sais que la situation, tu peux pas la changer, mais qu'est-ce que je peux faire pour la rendre un peu plus belle? Ben, c'est ce qu'on a fait pendant la pandémie. Et ça a permis de mettre en place le service d'intervention qui est pérennisé, qui va demeurer parce qu'il y avait un trou de service qui s'est révélé à nous.
Il y avait un besoin là, à ce niveau-là.
Il y avait un besoin. Puis, c'est ça, tu sais, les endeuillés qui étaient en établissement ne pouvaient pas sortir pour aller chercher des services. Les psychologues, on oublie ça, ils sont débordés. Une proche aidante endeuillée qui a des troubles auditifs ne peut pas avoir de service au téléphone. Ça prend quelqu'un qui se déplace. Quand ton conjoint des 60 dernières années décède, même si c'est dans l'ordre des choses, n'empêche que c'est ton conjoint des 60 dernières années qui est décédé, puis c'est normal que tu aies besoin de soutien. Donc, nous, on trouvait ça inacceptable que ces gens-là puissent pas bénéficier d'un soutien. Puis en même temps, on a réalisé qu'il y a personne qui était équipé ou qui avait, tu sais, pour aller offrir de l'intervention à domicile, il faut que tu sois à l'aise d'aller à domicile, puis d'aller dans l'environnement des gens. Puis nous, ben ça, c'est dans notre ADN. Fait qu'on s'est dit, on est bien placé pour le faire, tu sais. Mais on n'ouvrira pas un bureau de consultation ouvert 7 jours sur 7.
Ouais.
Parce que ça, il y en a d'autres qui le font.
Que diriez-vous qu'aujourd'hui, là, avec le, quand même une grosse partie de la pandémie qui est derrière nous, est-ce que ça va mieux là, au niveau du roulement des bénévoles? Je pense que c'est qu'il y avait plusieurs escouades. Il y en a une qui est prévue prochainement. Fait, le cours un peu plus normal a repris au sein de l'organisme.
Oui, bien, on a formé 60 personnes l'année passée. Pas juste l'escouade, au niveau des formations régulières là, en visio. Et on prévoit en reformer autant cette année. Donc oui, au niveau du recrutement des bénévoles, la situation normale revient. On peut leur permettre de prendre une pause quand il en ressent le besoin. On peut se permettre de mieux les soutenir aussi. C'est sûr que le financement demeure toujours un enjeu, il demeurera toujours, mais à l'heure actuelle, la situation est plus facile. Puis on explose, c'est dans le sens où on a une explosion de demandes, une explosion de gens qui veulent être formés. Et là, le défi, c'est d'assurer une croissance cohérente et maintenir la qualité des services. Là. Fait qu'on met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver en bout de ligne.
C'est justement ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous tenez le coup avec cette augmentation-là de votre organisme? Est-ce que vous êtes la seule qui assure par rapport aux bénévoles, ce qui les soutient? Est-ce que vous avez d'autres personnes avec vous qui vous aident dans tout ça?
Oui, on a maintenant une responsable des accompagnements. qui est à temps partiel. On a une responsable de la formation aussi. Donc, au niveau du soutien, et on a une conseillère clinique. Donc, au niveau du soutien aux accompagnants, le lien avec les réseaux de la santé, le lien avec les familles, on est bien équipé. C'est sûr que la croissance des besoins, je ne sais pas encore. Quand est-ce qu'on va avoir atteint notre pleine capacité? D'après moi, elle n'est pas très loin, mais pour l'instant, ça va. Puis du côté intervention, ben on a effectivement eu du financement. Donc, on est rendu 8 dans l'équipe, plusieurs à temps partiel. La majorité étant plus du côté de l'intervention auprès des proches aidants des endeuillés. Et on est 3 là, à travailler du côté formation et soutien aux bénévoles.
OK.
Donc, on commence à avoir une équipe. On a passé d'un à 8 en 2 ans.
Ouais. Il y a eu une grosse croissance.
Effectivement. On a une belle équipe.
Vous devez être fiers de ce que vous avez accompli depuis que vous êtes en charge de l'organisme.
Il reste beaucoup à faire. Je suis plus du genre à voir tout ce qu'il y a à faire, mais je suis fière de mon équipe. Moi, je travaille avec des gens qui sont exceptionnels, qui ont du cœur. Les accompagnants bénévoles, ils sont extraordinaires. Ce qu'ils font, ça me touche de décider d'aller une fois par semaine rencontrer quelqu'un qui, au départ, est un étranger, rentrer dans sa vie en sachant qu'il est dans les derniers mois, dernières semaines de cette vie-là. Je constate que c'est un don de soi qui est exceptionnel et on ne voit même pas nos proches une fois par semaine pendant 3 heures en règle générale. Donc, c'est vraiment... Ils sont extraordinaires. Puis ça, moi, je suis contente de ce qu'on peut mettre en place pour mieux les soutenir, pour mieux les accompagner, pour mieux reconnaître ce qu'ils font, pour mieux faire connaître ce qu'ils font. Puis c'est vraiment ce qui motive l'équipe à la permanence, c'est d'offrir ce soutien-là aux accompagnants. T'sais, les accompagnants sont là pour la personne qui est en soins palliatifs et pour ses proches. Puis nous, ben, on est le filet de sécurité autour des accompagnants aussi. Donc, si l'accompagnant voit que la proche vit une détresse ou de l'anxiété ou peut proposer de rencontrer une intervenante de l'équipe. Fait qu'on commence à avoir un service intégré, si on veut, qui est sécuritaire, qui englobe l'ensemble de l'équipe familiale autour de la personne en soins palliatifs. Puis ça, je trouve ça intéressant comme service. Puis on accompagne des gens dont le proche n'aura jamais besoin de l'intervenante et inversement, on intervient auprès de proches aidants et d'endeuillés dont le proche ne voulait pas nécessairement de service d'accompagnement et d'autant plus si t'es proche aidant à domicile de quelqu'un qui veut pas de service, toi t'as besoin d'être soutenu là parce que c'est toi qui tiens le fort, donc de pouvoir soutenir à ces deux niveaux là, au niveau des deux points de vue, je trouve ça intéressant.
C'est vraiment intéressant là de vous écouter en nous en parler. Là, moi c'est un organisme que je connaissais peu.
Oui, c'est une belle découverte.
On gagne à être connu. Tout le monde qui nous découvre le dit, mais on gagne. Moi, je pense qu'on gagne à être connu. Ça, j'en suis intimement convaincue.
Oui, bien vraiment. Puis un gros merci d'avoir pris de votre temps pour venir partager avec nous sur l'organisme. Puis en espérant que ce podcast-là va permettre de la faire connaître, puis peut-être de recruter des nouveaux bénévoles aussi.
Oui, ça serait intéressant. Tout le monde est bienvenu. Puis les expériences sont uniques, hein. Chaque accompagnement est unique, chaque rencontre est unique. Puis les accompagnants, écoute, j'ai des accompagnants qui travaillent dans le milieu manufacturier, j'ai des informaticiens, j'ai vraiment des gens de tous les niveaux. J'ai quelqu'un en informatique qui dit, ben moi, il manquait d'humanité dans mon travail parce qu'il travaille avec des machines. Et c'est chez Albatros qui vient chercher sa part d'humanité. On a quelqu'un en assurance qui c'est la même chose, dans le fond, dépendamment du profil de la personne. Tout le monde est bienvenu, tout le monde peut trouver son compte, puis on respecte les limites de l'accompagnant aussi. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, un contexte de violence conjugale, je suis pas capable, ou j'ai des allergies aux chats, ou tu sais, dans le fond, tout le monde a des limites personnelles qui sont importantes à identifier et qui sont importantes à respecter aussi par l'organisation. Puis ça, je pense qu'on le fait, qu'on a le souci de bien le faire. Puis nos accompagnants, c'est vraiment nos meilleurs ambassadeurs, mais tout le monde qui a un coup de cœur pour les soins palliatifs peuvent devenir accompagnants en soins palliatifs dans la mesure où ils sont capables d'écouter, où ils sont ouverts à toutes les cultures, à toutes les cultures familiales, à toutes les histoires de vie aussi, les croyances. Tu sais, nous, on accompagne les gens, peu importe leurs croyances, peu importe leur maladie, peu importe la façon dont ils veulent vivre leur fin de vie aussi. Donc, c'est le respect total que la personne, peu importe ses décisions quant à son niveau de soins, quant à ses fins de vie. La moitié des gens qu'on accompagne réfléchissent à l'aide médicale à mourir et on est très à l'aise avec la réflexion, avec le processus et ça leur appartient. On n'est pas là pour juger les gens. On accompagne des gens d'autres cultures. On accompagne des gens, on accompagnait quelqu'un qui était de la communauté musulmane et il n'y a pas de limite. Donc, le bon accompagnant, Albatros, c'est celui qui ne mettra pas de limite puis qui n'est pas là pour imposer, lui, sa vision de la belle mort, sa vision de la belle vie et sa vision de ce qu'il faudrait que ce soit. Dans le fond, c'est la personne qui le vit, puis c'est la personne qui doit prendre sa décision, puis qui doit décider de comment elle veut le vivre.
C'est une approche qui est vraiment respectueuse, là, dans le plus grand des respects. Là.
Effectivement, c'est ce qu'on souhaite.
Ben, un gros merci encore pour votre partage, puis en espérant qu'on ait l'occasion de se rencontrer bientôt, puis de rejaser sur les soins palliatifs. Merci beaucoup, Marie-Chantal.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.